Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC et sur RMC Story. C'est le canal 23 de la TNT. Estelle n'est pas là aujourd'hui, elle sera de retour avec nous dès lundi. Autour de moi aujourd'hui, il y a Alfred Orange, journaliste RMC, Pierre-Édouard Magnan, militant associatif, Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîte, et Thierry Moreau, journaliste média. Dans un instant, on va parler de cet appel unanime, l'ensemble des syndicats de la SNCF qui appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars prochain, de la semaine prochaine. Est-ce que vous soutenez toujours ce mouvement? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, la hausse des prix, la baisse de la qualité de service, les quantités qui se réduisent petit à petit dans les assiettes. Avez-vous encore envie d'aller au restaurant? À 14h40, ce seront les immanquables d'Alfred Orange.
RMC Estelle Midi.
C'est l'appel du jour, appel à la mobilisation de l'ensemble des syndicats de la SNCF à partir de la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Alfred, ces syndicats promettent de frapper fort, voire même très fort.
Oui, les syndicats veulent faire de cette journée le point d'orgue de la bataille contre la réforme des retraites à la SNCF. Les quatre syndicats cheminots majoritaires se sont accordés pour une grève reconductible à partir du 7 mars. L'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, parle d'une grève reconductible d'au moins 10 jours pour bloquer Paris pendant 2 week-ends. Voilà pour le tableau. Les cheminots rejoignent ainsi aussi la RATP qui avait déjà annoncé qu'elle allait partir en reconductible le 7 mars. Et puis d'autres secteurs stratégiques sont sur la même longueur d'onde. Les raffineurs débuteront leur grève le 6 au soir. Pareil chez EDF qui annonce des coupures d'électricité ciblées. Les éboueurs sont aussi appelés à durcir le mouvement. Idem dans l'éducation nationale. L'intersyndicale appelle à fermer totalement les écoles, les collèges et les lycées.
L'ensemble des syndicats de la SNCF qui appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars prochain. Soutenez-vous toujours le mouvement? Vous nous appelez au 3216. Et je me tourne d'abord vers Pierre-Édouard Magnan, puisque tu soutiens le mouvement de Grogne contre la réforme des retraites. Grève reconductible, ça veut dire, allez, pour la, à la SNCF, on est parti de là, mais ça peut être le cas également à la RATP ou pour les transports publics dans pas mal de grandes villes. Ça veut dire pas de bus, pas de train, pas de tramway pendant des jours et des jours. Est-ce que tu crois que c'est tenable? Est-ce que tu soutiens cette initiative?
Ah ben, je la soutiens, puisque comme je le dis à peu près à chaque mouvement social autour de cette table et depuis bien plus longtemps ailleurs, un mouvement social qui à un moment ne bloque pas et ne gêne pas ne peut pas créer un rapport de force qui obtient gain de cause. Alors après on peut débattre de la justification des nécessités d'obtenir gain de cause, mais le fait est que, en plus pour l'instant on est dans une suite logique, les syndicats ont... de mon point de vue, plutôt bien joué. C'est-à-dire qu'on a commencé par des journées de mobilisation ponctuelles. Il y a même eu une journée de grève un samedi. En fait, ce n'était pas une journée de grève, c'était une manifestation en disant, bien, surtout, on n'appelle pas la grève. On a enjambé les vacances scolaires. Et on voit d'ailleurs pour l'instant que le soutien de l'opinion publique demeure. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre 1, 2, 3 millions de personnes dans la rue. Mais il faut un soutien de l'opinion publique. On le voit. Et pour l'instant, ce soutien, il est là. Alors, combien de temps il va tenir si on commence à bloquer dans la durée?
C'est la question, Pierre-Edouard, tu as bien compris, parce que
évidemment,
tu es contre la réforme des retraites. Je ne dis pas toi, je parle d'un citoyen lambda. Je suis contre la réforme des retraites. Et je soutiens les grévistes. Le mardi, je n'ai pas de bus. Je me débrouille comme je peux, je vais marcher 3/4 d'heure, ok. Le mercredi, toujours pas de bus, et j'avais des enfants à amener, bon c'est pas grave, allez, on va se débrouiller. La semaine suivante, la semaine suivante, rebelote, dès le lundi, tu sais très bien que ça use.
Mais le sujet, c'est que ça va user, ça va créer de la grogne et de la colère. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, cette colère, elle s'annonce plus... J'ai bien aujourd'hui, cette colère à venir, évidemment, elle s'oriente plutôt pour l'instant contre le gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit, quand on a un peu d'études, que pour l'instant, s'il y a blocage, la majorité des gens considèrent que c'est la faute du gouvernement. Est-ce qu'au bout de 3, 4, 5, 6, 10 jours de grève des transports, cette colère sera toujours portée au débit du gouvernement en disant « c'est de sa faute si les syndicats bloquent le pays » Ou est-ce que ça va se tourner, comme on a déjà vu, contre les syndicats? On rappelle toujours l'ensemble de précédents, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de grand recul d'un gouvernement ou de grandes avancées sociales sans grand mouvement et mouvement de blocage. Rappelons 95, rappelons 2005. 2010 a été d'ailleurs un échec du point de vue de la mobilisation, puisque la réforme Fillon à l'époque pour les retraites déjà était finalement passée malgré une mobilisation très forte. Donc évidemment que ça va gêner, évidemment que les gens vont... Je dis les gens... votre serviteur en tête. En plus, je fais la campagne, typiquement, les raffineurs émettent les trains, je peux me débrouiller, encore que c'est en lieu pour venir ici, mais je peux dire aussi en voiture. Le vrai sujet, c'est que s'il n'y a plus de train, plus d'essence. Donc, je suis le premier, je serais peut-être le premier aussi à râler chez moi. Alors, moi, je sais que je continuerai de râler contre le gouvernement et sa réforme, mais je suis un militant engagé, pour employer un gros mot, avec une certaine conscience politique et syndicale. Mais j'entends bien qu'effectivement, quand il faut emmener les enfants à l'école et qu'on peut pas tous, là, on n'a pas tous la chance de pouvoir emmener nos enfants à l'école à pied, que les gens doivent pouvoir aller au travail, etc. Le vrai sujet, et j'espère que ça va effectivement tenir, c'est effectivement, est-ce que la colère va continuer de se retourner contre le gouvernement? D'autant qu'en plus, là, on est dans une fuite logique du mouvement. Et en plus, j'allais dire, les chiffons rouges agités par les Républicains au Sénat. Enfin, je veux dire, franchement, je pense que François-Xavier Bellamy est un allié objectif des syndicats. Parce que dire.
Bah, il n'est pas au Sénat, lui.
On supprime.
Hein.
Non, mais j'y pense parce que c'est lui qui l'a dit en premier. Mais celui-là, il y a un certain
nombre de sénateurs. C'est pas lui qui va voter la loi, donc il peut dire n'importe quoi.
Ce qui sera pas une première, d'ailleurs, le concernant. Mais, cela dit, on voit aussi, d'ailleurs, il y a aussi d'autres sénateurs de droite qui l'ont dit, qu'il faut supprimer les régimes spéciaux. Il faut supprimer la fameuse clause du grand-père, c'est-à-dire à ceux qui aujourd'hui bénéficient du système, même si ceux après 2020 n'en bénéficient plus, bah finalement, on va changer les règles du jeu en cours. Si on veut mobiliser à mort les SNCF et la RATP, il y avait que ça à faire.
Ce qui est intéressant, je me tourne vers Jérôme Lavrue, mais ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu citais son nom, François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, qui a dit quand même ce dimanche, bon, ça me fait sourire parce qu'il y va.
Il a abusé du vin de messe.
Non, mais il dit, de toute façon, quitte à avoir des grèves, quitte à avoir des manifs, autant faire une vraie réforme et supprimons la clause du grand-père, c'est-à-dire supprimons les régimes spéciaux tout de suite. Jérôme, est-ce que tu penses que les Français vont continuer à soutenir ce mouvement s'il y a une semaine, deux semaines, voire plus de grèves, plus de transport?
Je pense que non. Alors, je suis favorable au droit de grève, c'est un droit constitutionnel, etc. Ça m'étonne que de la part d'un militant associatif de gauche, tu ne l'aies pas rappelé. Et une des victimes des droits de l'exercice du droit de grève, c'est les gens qui sont en grève dans les grèves reconductibles, c'est les gens qui ne toucheront pas leur salaire parce qu'ils sont en grève. Ouais. Je rappelle que la contrepartie de faire grève, c'est que on a un vrai engagement personnel parce que on perd de l'argent. Moi, sur la réforme des retraites, je suis favorable à cette réforme des retraites. C'est pas la première, c'est pas la dernière. La plus dure qui ait jamais eu lieu n'a pas mis des gens dans la rue. C'est la réforme Marisol Touraine qui s'est faite un petit peu en catimini par un gouvernement.
Mais je suis d'accord.
Par ton gouvernement de gauche.
Non.
Qui produit encore des effets pour 5, 10, 15 ans qui viennent. C'est la plus dure. Hein. C'est le report, l'allongement
de la durée d'indemnité
pour la cotisation. Moi, je suis un forcené de la démocratie représentative. Je rappelle que fixer l'âge du départ légal à la retraite, c'est une compétence législative, du législateur, c'est-à-dire de nos représentants. Et donc moi, c'est eux qui ont la légitimité pour le faire. Je sois d'accord ou pas d'accord avec eux, ils ont la légitimité pour le faire, d'autant que le président, qui a gagné les élections, jusqu'à preuve du contraire, avait dit « je ferai 65 ans ». Moi, j'ai une solution pour que tout le monde, pour que le gréviste ne perde pas d'argent.
Vas-y Jérôme, dis-nous tout.
Pour qu'on ne bloque pas le pays. C'est de dire, bah écoutez, tous ceux qui sont contre et qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, vous attendez pendant 3 ans et demi, c'est ce qui doit nous rester, 4 ans, sur la prochaine élection présidentielle. Et puis vous allez aller voter pour le candidat ou la candidate, tac-tac, qui vous promettra un retour à 60 ans sans que ça coûte d'argent à personne et le maintien de tous les régimes spéciaux qui permettront de partir à 52, 54, 55 ans et que tout ça sera équilibré et qu'on trouvera l'argent magique pour le faire. Donc vous irez et vous voterez pour eux. Si en plus vous pensez qu'ils feront ce qu'ils vous ont promis, libre à vous d'être déçus. Parce que vous serez déçus parce qu'ils ne feront pas ce qu'ils vont vous promettre. Et là, vous avez résolu le problème. Ça s'appelle la démocratie représentative.
Mais alors, Jérôme, la question, elle est de savoir que si à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus de train en France, est-ce que tu penses que les Français vont continuer à soutenir ce mouvement?
Je pense que non. Je pense que non. Je pense que c'était d'ailleurs ce que disait le patron de la CFDT, qui est le premier syndicat le plus représentatif, etc.
Privé public,
qui est un syndicat relativement modéré, qui va dans ce principe de grève reconductible un petit peu à reculons. Lui, il voulait faire des mobilisations fortes par période sur une journée.
Pour pas emmerder les Français, c'est l'expression qu'il a utilisée.
Bien sûr, c'est l'expression de Georges Pompidou qu'il a reprise à son compte. C'est vous dire s'il est constructif. Sauf qu'on voit que les deux derniers ou trois derniers jours de mobilisation forte n'ont pas été aussi forts qu'ils l'espéraient. Jean-Luc Mélenchon, le dernier jour de, nous avait dit, c'est un samedi, vous verrez la plus grande manifestation que la France n'ait jamais connue de toute son histoire. Ben non, non. Ça emmerde tout le monde, cette réforme. Et les gens ne sont pas pour, moi non plus. Je vous rassure, moi, c'est 67 ans plus, plus, hein, parce que j'ai des trous dans la raquette de cotisation, etc. Donc, je serai une des premières victimes. Sauf qu'on ne peut pas faire autrement.
Thierry Moreau, on entend ce que dit Jérôme, on entend ce que dit Pierre-Édouard. Il y a une opposition à cette réforme. Maintenant, de là à continuer à soutenir le mouvement et à endurer, pour le citoyen lambda, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours sans transport, il y a une marge.
Il y a une marge qui fait que la population ne finira par ne pas suivre. Mais si, il y avait d'autres manières de procéder. C'était de revenir à la réforme systémique, qui était la réforme la plus juste. Ouais. Simplement, on a voulu remettre du paramétrique dedans.
Qui n'était pas plus populaire. Qui n'était pas plus populaire, non.
Alors, la première, si, parce qu'elle était 1 euro cotisé, 1 euro à la retraite. Mais bref, on ne va pas rentrer dans ce débat.
Oui, évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est la forme du mouvement. Là.
Voilà. Aujourd'hui, je pense que d'abord, ça n'empêchera pas la réforme de passer. Donc, il faut bien se le dire. Il peut y avoir 10 jours de blocage, 20 jours de blocage, 30 jours de blocage. La réforme passera, que ça soit en vote bloqué, que ça soit en ordonnance, que ça soit en ordonnance après commission paritaire. Enfin, de toute façon, le process législatif fait que ça sera adopté. La deuxième chose, c'est qu'une fois de plus, ceux qui ont besoin d'aller bosser tous les jours pour un petit salaire vont être pénalisés. Et qu'une fois de plus, ça va être les bastions syndicaux minoritaires privilégiés qui vont empêcher ceux qui peuvent pas se permettre de perdre une journée de travail avec des salaires qui sont pas élevés, qui vont de Vitry jusqu'à la Défense pour aller nettoyer des bureaux pour un salaire de misère. C'est ceux-là qui vont être pénalisés. Donc c'est un mouvement qui va devenir impopulaire, évidemment. Et si ça devient le bazar, j'allais dire la chienlit pour revenir à une période encore plus éloignée que celle de Georges Pompidou, mais celle de Gaulle, eh ben le gouvernement aura toute latitude pour accélérer le mouvement et dire on arrête la chienlit, on arrête le bazar et on fait passer la réforme en force et rapidement. Donc de toute façon, et puis accessoirement, tu en as parlé un peu, ça va briser le front syndical qui était plutôt uni sur cet art. Et pour revenir sur ce que tu disais, alors tu vas me dire c'était une réforme sociétale et pas une réforme sociale, mais la réforme de l'école privée en 84, c'est bien une mobilisation populaire non bloquante qui a amené un gouvernement à renoncer à un texte de loi.
L'ensemble des syndicats de la SNCF qui appellent à la grève reconductible à partir de la semaine prochaine, à partir du 7 mars, est-ce que vous soutenez toujours le mouvement? Nous vous posons la question au 32-16 et au 32-16 justement, nous avons Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Non, Patrick n'est pas là. Bon, c'est pas grave, Patrick n'est pas avec nous. Mais normalement, nous avons Bruno Poncé.
Je suis là.
Ah, bah, Patrick est là, Patrick. Vous avez raison de vous faire entendre. Si, il est là, Patrick. On l'entend bien.
Bonjour à tous.
Bonjour, vous nous appelez de Haute-Garonne, Patrick.
Oui, c'est ça.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je vous pose la question, Patrick. Grève reconductible à la SNCF, notamment, à partir de la semaine prochaine, à partir du 7 mars, est-ce que, malgré cet appel à la grève reconductible, malgré, allez, je vais dire le mot, je reprends du Pompidou, les emmerdes que vont connaître les Français, est-ce que vous continuez à soutenir ce mouvement?
Tout à fait. Et j'espère même qu'il y aura aussi les pétroliers, que tout le monde s'y mettra et qu'on va tout bloquer. De toute manière, il y a un gouvernement qui n'écoute pas.
Vous faites quoi dans la vie, Patrick? Excusez-moi, je voudrais commencer par ça.
Moi, je suis électricien.
D'accord.
Voilà. À votre compte?
Non, pas à mon compte, non. Je travaille pour une entreprise. Et de toute manière, c'est généralisé. En France, on n'écoute pas, que ce soit dans le privé, quand vous avez des mouvements. Il faut à un moment bloquer. Lorsque, au niveau du dialogue, en France, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À tous les points. Alors, les grèves, comme vous dites, les grèves qui n'embêtent personne, on a vu ce que ça donne. Hein. Moi, ça fait 20 ans que ma femme est dans l'hospitalier, 20 ans qu'ils manifestent avec une belle pancarte devant les hôpitaux. Et en 20 ans, on n'a fait que détruire de plus en plus l'hôpital. À tous les points, de toute manière, si à un moment, il n'y a pas soit blocage, soit à force violence, on n'est pas écouté, que ce soit dans le privé, dans les entreprises, ou que ce soit le gouvernement, de toute façon, je ne sais pas pourquoi en France, on n'écoute pas. Le peuple, alors, peut-être que cette réforme était utile, mais la manière pédagogique dans laquelle elle est mise en place, on n'informe personne. Pourquoi réellement on devrait bosser jusqu'à 64 ans? Pourquoi au lieu de faire essayer de faire en sorte de faire travailler,
Oui. Patrick, je me permets de vous interrompre, mais on a compris votre opposition à cette réforme des retraites. Moi, la question là qu'on se pose, c'est est-ce que la grève reconductible, c'est la bonne méthode? Est-ce que le fait de priver les Français de transport, ça risque pas de faire l'effet inverse, c'est-à-dire de rendre impopulaire ce mouvement? Vous craignez pas ça?
Malheureusement, si, mais de toute manière, il n'y a pas d'autre moyen.
Restez avec nous, Patrick. Je veux vous faire dialoguer, si vous voulez bien, avec Guillaume, qui nous rejoint au 32-16. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Guillaume qui nous appelle au 32-16, je suis d'Angoulême, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous faites quoi dans la vie, Guillaume?
Je suis artisan menuisier.
Très bien. Le pays bloqué, on n'a pas d'autre moyen, nous dit Patrick. Vous en pensez quoi?
Non. Moi, j'en peux plus, moi, de cette minorité privilégiée là, qui bloque le pays à chaque fois, parce que c'est des. Enfin, c'est SNCF, EDF, enfin, tout ça, là, qui est pourri par les syndicats. Et enfin, moi, j'en peux plus de ça. On est devenu un pays qui est irréformable. On peut rien faire dans ce pays. Enfin, c'est moi, ça me. On va foutre l'économie à genoux parce que on veut rien faire, on veut pas bouger son petit confort. Ça me dépasse, quoi.
Patrick, vous entendez ce que dit Guillaume? Vous comprenez son inquiétude?
Je comprends totalement son inquiétude. Bien sûr, c'est un indépendant. Lui, il subit tout ce qui est mis en place. De toute manière, il le subit. Et en plus, quand il y a des contestations, il le subit aussi. C'est terrible. Mais en attendant, pourquoi nos gouvernements sont incapables de faire des réformes, qu'on les comprenne? Et que ensuite, effectivement, il y a des agissements avant qu'on en arrive à ce point-là. Parce que ce monsieur, il dit, oui, encore des privilégiés. Mais vous savez qu'il y a plein de travailleurs qui ne sont pas des privilégiés, comme moi, qui ont commencé à travailler à 16 ans, dans des métiers difficiles. J'ai travaillé dans le bâtiment. Mais on n'est pas des privilégiés, mais autour de moi, mais beaucoup de gens sont prêts, en fait, à ce que cette réforme ne passe pas dans tous les cas. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'elle passe. Alors, vous voyez, il y a aussi quelque chose, c'est que ce gouvernement, comment il a agi depuis qu'il est au pouvoir, le peuple n'a jamais été entendu, les gilets jaunes.
Mais il a été élu, ce gouvernement.
Il y a eu des élections, je me souviens bien, en avril 2022, présidentielle et puis législative ensuite.
Oui, mais il y a une chose que ces gouvernements doivent comprendre, c'est qu'à un moment, effectivement, ils ont été élus, mais il faut qu'ils acceptent qu'ils ont été élus parce que, grosso merdo, on n'avait pas le choix.
Bien sûr.
Alors, effectivement.
Il y avait plus de 12 candidats au premier tour.
Alors, effectivement.
Et aux législatives, on pouvait aller à le choix.
Les jours, quand je serai effectivement, fainé, je serai de droite comme vous, c'est plus facile.
Le prochain vote que je vais faire, je ne ferai plus de vote pour éviter une personne. Maintenant, je voterai. Malheureusement, ça se trouve.
Pour vos convictions.
Ce sera pour convictions. Maintenant, c'est terminé. Voilà,
Merci, Patrick. Voilà. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous. Patrick est avec nous au 32-16 depuis la Haute-Garonne. Merci également à Guillaume qui nous appelait d'Angoulême. Et Bruno Poncet nous rejoint. Bonjour, Bruno Poncet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cheminot, GG, membre des Grandes Gueules. Bruno Poncet, ce mouvement de grève prévu, reconductible désormais, il est unanime à la SNCF, à la RATP notamment. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il se retourne contre vous au final?
Non, parce que c'est pas une grève de cheminot là, ce coup-ci. On n'est pas dans une grève de cheminot, on n'est pas dans une grève de
catégorielle.
On est dans une grève qui touche toutes les professions, même la vôtre.
On n'est pas dans une grève générale encore, hein.
On verra ça mardi, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein d'amis qui sont pas cheminots, parce que moi, je vis pas dans un monde que de cheminots. J'ai plein d'amis qui sont pas cheminots, qui seront en grève mardi, et dans toutes sortes de corporations. Parce que cette grève-là.
Moi aussi, j'ai plein d'amis qui font pas grève. On peut tous avoir des amis. C'est vraiment significatif.
Droite, c'est peut-être ça, monsieur Moreau. Mais moi, je connais plein de gens, et moi, j'ai même des amis de droite qui seront en grève-là, parce que le sujet aujourd'hui, c'est que cette retraite, cette réforme-là, elle a tellement été mal amenée, c'est-à-dire qu'on vous explique que ça va être pour compenser l'argent qui a été distribué pendant des mois. Ensuite, on vous explique qu'on vous envoie 64 ans. Le même président qui avait dit il y a quelques années que ça ne servait à rien de repousser l'âge de la retraite, on vous dit ça. On vous dit que c'est 1200 euros, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, tout ce qui a été dit, c'est faux. Tout le monde vous dit que maintenant,
cette réforme-là,
elle est tellement mal montée. Non seulement elle n'a pas de raison d'être, mais en plus,
c'est quoi la meilleure réforme pour vous, alors?
la meilleure réforme, réellement,
la, plus,
après,
la mieux montée.
Voilà, on va pas essayer de faire de démago, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous fais un peu de démago, mais là, j'essaie de pas trop en faire, mais je pense réellement qu'il y a de l'argent à aller chercher ailleurs que dans des impôts. Parce que
donc, c'est plus la retraite par, donc vous êtes contre la retraite par répartition.
Mais si, la retraite par, répartition, elle serait jouable et juste si, à un moment donné, tout ce que l'argent qui est prélevé sur les salaires de qui que ce soit aille dans un endroit où on voit quoi l'argent sert. Or, aujourd'hui, vous le voyez bien, moi, personnellement, chez SNCF, je cotise plus que vous à la retraite parce que, personnellement, que moi, je devais partir plus tôt. Non, mais c'est vrai. Ben,
ouais, sauf que le gouvernement remet 30 milliards d'euros par an pour, justement, abonder les systèmes de retraite particuliers comme les vôtres. 30 milliards d'euros par an.
Il y en a un. Moi, ça n'empêchera pas. Moi, je vous le dis. Et si vous voulez, demain, vendredi, je fais l'émission Les Grandes Gueules. Venez me voir, je vous ferai ma fiche de paye. Moi, j'ai un prélèvement plus important que le vôtre parce qu'il devait compenser mon départ plus tôt. Or, aujourd'hui, moi, depuis que je suis en SNCF, j'ai pris 10 ans. Si je veux une retraite à taux plein, c'est 65 ans pour moi. Alors, je vais partir à 55.
Moi, c'est 67.
Alors... Bruno, le débat il est intéressant, on parle du fond, mais encore une fois moi je veux revenir sur la forme parce que c'est notre sujet, c'est cette question de la grève reconductible.
Justement.
Bruno, on est dans un contexte très particulier. Aujourd'hui il y a une inflation, il y a pas mal de gens qui tirent la langue. Même si ces personnes sont opposées à la réforme des retraites, et si ces personnes sont gênées dans leur quotidien, peuvent pas prendre leur bus, peuvent pas prendre leur métro, loupent une journée de boulot, et est-ce que vous pensez sincèrement qu'elles accepteront, ces personnes, de risquer de perdre une deuxième journée de boulot?
Ah, moi, je vais vous dire deux choses. Et si vous n'arrivez pas à me couper, vous allez peut-être les entendre. Je vais vous juste dire deux choses. Première chose, je me dis, et je pense qu'on est beaucoup à se dire, vous peut-être mieux des fois faire perdre une semaine, allez, 5 jours, 10 jours de salaire.
Mais il y en a qui ne peuvent pas. Bruno, il y en a qui ne peuvent pas.
Non, mais on est d'accord, mais à la SNCF aussi.
Votre entreprise, elle ne va pas fermer, là.
Mais plein de gens ne peuvent pas. Mais ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, vous peut-être mieux des fois perdre 10 jours et pas prendre 2 ans dans la gueule à la fin de votre carrière. Déjà pour commencer, tout quand vous faites des métiers pénibles, vous parliez des gens qui font le ménage. Bah, excusez-moi, mais moi j'en vois tous les jours. J'ai la mère d'amis qui est femme de ménage. On en a parlé il n'y a pas 100 ans. Moi j'ai parlé vraiment avec elle pour savoir si elle pouvait travailler jusqu'à 64 ans. Elle a dit non. Elle a 61 ans, elle attend la retraite avec impatience. Donc tout ça. Et le deuxième point, moi je vous dis, c'est que les mêmes gens qui souffrent aujourd'hui et qui risquent d'être coincés par des grèves, quelles qu'elles soient, parce que n'oubliez pas les raffineurs, n'oubliez pas les tout ce qui est hospitalier. Mmh. Ben moi, ce que je vois, tous les gens qui sont gênés, et depuis quelques mois, ces mêmes personnes payent une électricité, un gaz à hors prix, qu'ils n'arrivent même plus à suivre. Moi, j'ai des copains qui travaillent dans le, par exemple, qui sont routiers, qui n'ont pas de boulot en ce moment parce que les entreprises ne fonctionnent pas, sont en chômage technique. Parce que ça coûte trop cher, le gaz, l'électricité, l'essence coûte trop cher pour faire fonctionner les entreprises. Mmh. Dans quel pays civilisé, dans quel pays industriel, soi-disant la 5e ou 15e puissance mondiale, on sait même plus, on peut vivre comme ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est au-delà des grèves, ceux qui vont être dans la rue mardi, et peut-être qu'ils sont prêts à continuer, ils ont plutôt un ras-le-bol de cette société qui les a emmenés. Mmh. Aujourd'hui, vous peinez de plus en plus à vivre de votre salaire et de votre travail. Ouais. Il y a un vrai sujet sociétal, et moi je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement, au lieu de s'attaquer à la retraite, avait l'intelligence de s'occuper un petit peu de nos vrais, des vrais problèmes, des problèmes de salaire, des problèmes de recrutement, des problèmes d'un tas de trucs, au lieu de venir sur les retraites, alors que les retraites, c'est un truc. Bien sûr que c'est paramétrique, mais à chaque fois, c'est paramétrique, mais moi, j'en suis convaincu, mais même tous autour de la table. Cette année, c'est 64, dans 2 ans, 66, et à bientôt 70. Ouais. C'est
Bruno Poncé, merci Bruno d'avoir été avec nous, cheminot, membre des GG, qu'on retrouvera vendredi dans les grandes gueules sur RMC. Je voudrais donner la parole pour terminer à Bruno qui nous appelle, Florian, qui nous appelle depuis Montpellier. Ouais. Bonjour Florian.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce midi sur RMC, RMC Story. Vous soutenez ce mouvement reconductible?
Exactement. Si vous me laissez 30 secondes pour être détaillé.
30 secondes.
C'est la première fois de ma vie que je vais faire une grève reconductible et que je suis pour le blocage.
Vous faites quoi, vous faites quoi, Florian?
Alors, moi, je suis commercial. J'ai fait des études longues, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a le bac. Et donc, les entreprises demandent pour certains postes d'avoir des bacs plus 5, des masters. Donc, j'ai fait un bac plus 5, un master, plus une année à l'étranger qui me fait un bac plus 6. Et donc, je commence à travailler à 25 ans et je dois travailler jusqu'à 68 ans si j'écoute ce gouvernement. Les études que j'ai faites, c'est pas de la rigolade.
En 67.
C'est 67 la limite, hein, quoi qu'il arrive.
Exactement. Les études que j'ai faites, comme ils sous-entendent, c'est pas de la rigolade. Et ce que je voudrais leur dire, c'est que la fatigue au travail n'est pas que physique. Elle est aussi mentale. Je vois mes parents, je vois mon métier qui est épuisant. Je ne peux
pourquoi
pas.
Pourquoi vous changez pas de métier, Florian?
Non, mais j'aime mon métier, mais c'est pas. Je veux dire, mais dans tous les métiers, quand on a 65, 66 ans, c'est pas parce qu'on n'est pas dans des chantiers que ça devient pas délicat. Et là où je veux en venir, c'est autre chose. C'est que moi, ce qui me rend dingue, c'est que c'est toujours les mêmes. Alors, sans parler que la réforme des retraites, l'argent, c'est qu'une petite manne par rapport à tout ce que perd le pays. Moi, j'ai la moitié de ma famille et énormément de gens autour de moi qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ont des enfants, qui vivent des aides, qui ont un appart payé par l'État. Moi, je fais beaucoup de sport, je suis allé à la piscine là, entre midi et deux. Ils vont y aller cet après-midi, ils ne vont pas payer l'entrée à la piscine, ils ne vont pas payer les transports en commun. Et ces gens-là, je refuse de travailler un mois, un jour de plus pour payer ces gens-là qui trichent. Ils se déclarent en parole dans ma famille. Donc, il y a plein d'argent à aller chercher ailleurs qui dépensent beaucoup plus que la réforme des retraites.
L'argent que Florian veut chercher ailleurs, Pierre-Edouard, je crois que c'était pas tout à fait la même idée que tu avais.
Je pense qu'on n'ira pas le chercher au même endroit, mais c'est vrai que un jour je viendrai feignant et je deviendrai de droite parce que je pousserai la pierre dans le sens de la pente et ce sera tellement facile. Il y en a ras-le-bol de nous dire comme il y a des gens qui vont être impactés, faut rien, mais évidemment faire rien parce que les gens qui vont être le plus impactés par la grève sont ceux qui vont être encore plus impactés par le mouvement des retraites. La répartition, c'est pas que la masse salariale et cotisations sociales. Moins 8 milliards de cotisations sur la valeur ajoutée pour les entreprises. 20 milliards de CICE par an qui n'ont jamais rapporté de début d'un emploi.
Mesure de la gouvernement de gauche.
Je peux vous le prédire. J'ai une certaine notion dans le domaine. Je crois qu'on va en reparler de ce sujet. Donc on a l'occasion d'en reparler. Merci Florian.
Quelle bonne voyance.
Qui nous appelait depuis le département de l'Hérault. On vous a posé la question. Alors d'abord, 2-3 messages rapidement. Alfred.
Oui, on a reçu le message de BN qui nous dit: je suis contre les blocages, mais une élection a eu lieu il y a moins d'un an avec ce projet de réforme et c'est ce projet qui a gagné. 5 candidats proposaient la retraite à 60 ans. Il fallait y penser avant. Et puis Nicolas qui nous dit: les gens sont déjà à terre, ils n'ont plus rien à perdre et sont contre cette réforme. On soutiendra le mouvement.
On vous a posé la question, l'ensemble des syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir de la semaine prochaine, du 7 mars. Est-ce que vous soutenez toujours le mouvement, Alfred?
Vote passionné, vote serré. Vous répondez oui à 55%, non à 45%.
Ce n'est pas, c'est pas un sondage, c'est une consultation, mais
on trouve que
ça tangue
pour un score.
Je dis, ça tangue
un petit peu. Si mal.
Dans les précédents débats, on était à 70-30 en faveur de la lutte contre la réforme des retraites.
Allez, dans un instant, le meilleur du jour sur RMC, c'est le zapping dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, sur RMC Story. C'est le canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le zapping, on commence avec les GG, les ZFE, les zones à faible émission. Vont-elles exclure les pauvres d'ici 2025? 43 agglomérations françaises vont devoir mettre en place ces zones à faible émission. Ils seront donc exclus toutes les voitures portant la vignette critère 3, 4 et 5. Une bombe sociale qui va pénaliser les plus pauvres pour le député communiste Fabien Roussel. Mais pour l'éducateur Étienne Lebig, les Français ont un vrai problème pour accepter d'abandonner leur voiture.
L'écologie, c'est du long terme. C'est toujours du long terme. Tu vas dans d'autres pays, visiblement, ça pose pas de problème. Ici, tout est problème. Quand en Italie, tu ne peux pas rentrer dans les villes, si tu n'es pas résident, que tu te gares à l'extérieur et que tu rentres à pied ou en véhicule électrique.
C'est devenu un musée, c'est une ville.
Non, mais je parle pas de Rome, je parle même de plus grandes villes. Il n'y a pas que Rome. C'est comme ça partout. Espagne.
Oui, c'est des
comme ça à Madrid. Madrid, c'est pas une petite ville.
Mais c'est des centres-villes pour riches.
Donc, je dis juste que ça pose toujours problème en France parce qu'on a un véritable problème avec, en réalité, et on l'a vu avec le concept bagnole, avec le fait de la bagnole qui fait du bruit, qui a un gros tuyau d'échappement, une bagnole SUV de frimeur. On a ce problème-là de virilité. On a ce problème-là de virilité à travers la bagnole. On a un vrai souci d'abandonner la bagnole parce que c'est une espèce de mythe et ça le reste. Je suis désolé.
Jérôme Lavrieux, on a un problème avec la bagnole en France.
Non. Déjà, je ferai remarquer que la bagnole fait travailler plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Pas leur cracher dessus. Les ouvriers dans le Nord, dans les usines automobiles, méritent aussi le respect. Ce sont les derniers qui fabriquent. En général, ils fabriquent plutôt des SUV que des petites voitures qui sont fabriquées dans des pays à coût de main-d'œuvre plus bas. Non, les ZFE, c'est ni fait ni à faire. Les ZFE, c'est justement assigner à résidence, reléguer les pauvres dans leur quartier. Parce qu'on leur interdit avec leur voiture, ils n'ont jamais acheté de voiture neuve. C'est pas des gens qui achètent des SUV. Ils n'ont jamais plus de leur vie acheté une voiture neuve. Ils achètent une voiture de deuxième ou de troisième main qui est un diesel parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. et du jour au lendemain leur dit mais espèce d'abruti, pour aller faire le ménage à 5 heures du matin à l'heure où il n'y a pas de transport en commun pour aller dans les quartiers d'affaires ou la ville centre, bah tu vas y aller à pince parce qu'on veut pas que tu viennes polluer le centre-ville. Et en quoi on va m'expliquer que parce que le centre-ville de Lyon serait en ZFE, la vallée du Rhône serait dépolluée? Donc c'est on respire bien pour le centre-ville et vous venez pas nous emmerder. Déjà, on veut pas vous voir travailler pendant que nous on y est, donc vous venez à 5 heures du matin pour faire le ménage, mais les pauvres, vous restez chez vous dans vos quartiers de banlieue, dans votre immeuble de 15 étages. C'est ça la ZFE. On prend les choses entièrement à l'inverse. Faut d'abord construire un métro quand t'es dans une métropole. Faut d'abord un réseau de tram avant d'imposer aux gens qui se lèvent, qui vont de Meaux à Disney pour que, avec nos gamins, on puisse aller se balader.
Et
qu'ils prennent
un bus
ou qu'ils prennent leur pauvre voiture et qu'ils font du covoiturage à quatre dans le break qui envoie une fumée pas possible. C'est pas pour le plaisir de polluer. On n'a pas des dingues qui habitent dans les quartiers qui disent, mais moi, mon but ultime dans ma vie, c'est de polluer la vie de tout le monde. C'est qu'ils peuvent pas faire autrement. Et on aide à acheter des voitures électriques neuves. C'est pas ça qu'il faut faire. Celui qui, pour acheter une voiture électrique pour l'instant, il peut avoir les moyens de le faire, les gros SUV électriques. Ce qu'il faut, c'est aider des gens qui ont un diesel qui pue, qui pollue, à acheter une voiture d'occasion qui pollue moins. Puis après, une autre qui polluera encore moins. Je rappelle que par rapport à il y a 20 ans, les voitures à moteur thermique produites à l'heure actuelle polluent 30 à 40% de moins qu'il y a 20 ans. Donc on va dans le bon sens.
Pierre-Édouard Magnan, ça s'entend ce que vient de dire Jérôme?
Moi, je l'entends très bien. Je pense que les ZFE, a fortiori la manière dont elles sont faites aujourd'hui, sont faites pour créer une espèce de lutte des classes soi-disant écolo et soi-disant anti-écolo. En fait, c'est idiot, puisque tout le monde est pour diminuer la pollution, tout le monde est pour diminuer les particules fines du diesel qui sont effectivement une catastrophe, y compris sanitaire d'ailleurs, et pas uniquement écologique. Mais on prend il faut faire d'abord ce qu'il faut pour faire évoluer effectivement le parc automobile, c'est-à-dire qu'il faut y mettre les moyens, parce que vous avez effectivement plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc il faut faire ça. Et deuxièmement, surtout avant de mettre en place des ZFE, il faut mettre en place, et on pourra parler des zones rurales qui peuvent être concernées, il faut imaginer des vraies alternatives, c'est-à-dire des transports en commun en araignée avec des parkings réguliers autour, gratuits, parkings gratuits qui permettent après d'aller des heures dans les centres-villes avec des horaires adaptés, des parkings qui sont ouverts, j'allais dire 24-24, j'exagère, mais presque. Mmh. D'ailleurs aussi qu'il faut trouver des gens, qu'il faut les payer parce qu'il faut aussi de l'humain, parce qu'on va pas faire des immenses parkings autour qui sont complètement anonymes, parce que sinon, notamment on parle des gens qui font du ménage, en général des femmes et des femmes seules qui vont pas y aller. Enfin, il y a tout ça effectivement qui est à penser. Et petit à petit, on va effectivement sortir les voitures et la pollution des centres-villes. Et puis en plus, il faut effectivement faire attention parce que il y a un côté pauvre et pas pauvre, il y a aussi le côté rural et urbain. Parce qu'évidemment, à la campagne aujourd'hui, c'est bien les voitures électriques, mais faut encore avoir la possibilité de les brancher, de les recharger quand on n'est pas chez soi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, et en plus, aujourd'hui, le prix, même avec les aides, ça reste des voitures absolument hors de prix et qui aujourd'hui, au mieux, sont adaptées pour être la deuxième voiture des gens qui ont la possibilité d'en avoir deux, ce qui, quand même, diminue énormément la quantité. Donc, effectivement, je pense qu'on va en dépit du bon sens là-dessus.
Thierry Moreau, les ZFE, absurdité.
Absurdité, je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite au fin fond du fin fond du fin fond des Yvelines, c'est-à-dire à la campagne absolue.
Ouais. À Versailles.
Je serais pas du tout, beaucoup plus loin que ça. Pas très loin de Dreux, en fait, à la limite des Yvelines, mais pas très loin de Dreux. Ouais. Donc, on est à la campagne. Ouais. Cette zone va être ZFE au 1er janvier 2024. Ouais, mais... Et donc, normalement, je ne peux plus utiliser... Ah ben bien sûr,
j'ignorais.
Parce que je serais dans le Grand Paris.
Ah, parce que je
le
connais,
Grand Paris, ça regroupe les
Yvelines. C'est la campagne là-bas.
Voilà, et ça, c'est, tu connais, ouais, t'es venu, ouais, c'est là, vraiment la campagne.
C'est jusque-là.
Donc il y a une vraie stupidité dans ces ZFE. Autre stupidité, quand on voit la semaine dernière, aux alentours de Rouen, des manifestations pour bloquer la circulation. Alors, d'abord, ça engendre plus de pollution, mais ça, c'est pas grave. Fait par des insoumis pour protester contre les ZFE, ces insoumis qui font partie de la NUPES, dans lequel il y a des écolos qui sont ceux qui ont mis en place ces ZFE. Donc, on marche sur la tête. Et dernière chose que je voudrais rappeler, aujourd'hui, le premier prix d'une voiture électrique, c'est 10 mois d'un salaire moyen, de 10 mois. Donc, soit on y met les moyens, alors que je te rejoins complètement sur les parkings en périphérie, les transports en commun. On a pris le programme à l'envers. On a interdit les voitures avant même de développer les trucs alternatifs.
Puis il y a un appel d'air aussi avec l'électrique. Ce matin, on en a parlé avec Alfred. On a vu que les sociétés de leasing surfacturaient.
Bien sûr.
Les voitures électriques.
Dès qu'il y a beaucoup d'aide, on surfacture le prix de départ. C'est ça. Ça bouffe les aides et qu'à la fin.
C'est le même système que quand il y avait eu la polémique sur baisser les APL de 5 euros. En fait, les APL, le propriétaire, il calcule ton loyer en fonction de l'APL que tu vas recevoir.
Et puis en plus, demain, si tout le monde passe à l'électrique, on n'est pas en capacité aujourd'hui de fournir l'électricité pour tout le monde.
À chaque fois qu'on pose ça,
je sais que c'est pas grave parce que ça viendra.
Ça va se faire au fur et à mesure.
Pour l'instant,
je suis pas contre l'électrique, je trouve que c'est très bien.
Et c'est pas ce qu'il y a de plus écolo en plus. C'est pas ce qu'il y a de plus écolo.
À Lyon, on le sait. À Lyon, on a une métropole qui est dirigée par des Verts. Pour des raisons professionnelles, je travaille dans la banlieue lyonnaise. Je connais bien le sujet. Une métropole qui est dirigée par des Verts. Ils ont voulu aller plus vite que la musique, c'est-à-dire plus vite que la loi pour la mise en place des feux. Ils se sont pris un sondage dans les magazines de Lyon pour dire qu'ils étaient détestés par tout le monde. Mmh. Résultat des courses, ils font machine arrière, tout écolo qu'il soit. Ils disent « Non, on va prendre notre temps maintenant. Mmh. » Bah oui, tu m'étonnes.
Allez, Apolline Matin, comment endiguer la violence du narcotrafic à Marseille déjà? 6 personnes sont mortes dans des affrontements entre bandes rivales pour le contrôle du marché de la drogue. Des rixes qui deviennent de plus en plus violentes et que dénoncent les habitants au micro de RMC.
Ça vient tirer en pleine journée, même devant des enfants. Les personnes qui font ça ne regardent plus rien. Ils ne regardent pas qu'il y a des habitants à côté. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les habitants, ils ont peur. C'est vraiment un cancer qui se généralise dans tout Marseille et pas uniquement à la Paternelle. J'ai vu qu'il y a une police qui a été amenée à Marseille. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps elle va rester.
Je me souviens, il y a encore de ça quelques années, quand Jean-Claude Godin était encore maire de Marseille, quand les journalistes, j'en ai fait les frais, l'interrogeaient sur les règlements de compte à Marseille, ils nous renvoyaient dans nos cordes en nous disant « Vous êtes des Parisiens, vous ne savez pas de quoi vous parlez, regardez ce qui se passe à Paris et arrêtez de critiquer la ville de Marseille. » Voilà, et on en est toujours là aujourd'hui. Les habitants sont confrontés à ça, ça continue.
Ouais, mais il y a un vrai angle mort, parce que quand c'est la violence du narcotrafic, c'est-à-dire plutôt dû au narcotrafic. Il y a un vrai angle mort dans tout ça. C'est qu'on dépense des milliards pour lutter contre les trafiquants. On a raison. Je suis désolé, les gens des quartiers, ils s'achètent pas, ils se revendent pas entre eux la drogue pour la consommer entre eux.
Non, ils sont victimes.
Vous voyez le premier débat que nous avons eu sur l'affaire Palmade. Il y a des gens qui viennent et qui achètent de la drogue. Donc moi je pense que là il faut être beaucoup plus dur, notamment en interdisant certains métiers, si on a fait l'usage de stupéfiants. Moi je prendrais pas un avion si je savais pas que le pilote il avait des contrôles sur les stupes régulièrement. Bah tu peux prendre un bus, tu peux conduire un camion, tu peux conduire tes enfants en voiture. T'as ton permis de conduire, on va pas te faire de contrôle inopiné pour dire voilà. Et donc on a un vrai sujet. Ceux qui achètent de la drogue, alors je vais pas être vieux moraliste de droite machin, c'est tout pas bien. Non,
je, mais c'est pas si vieux.
Je pas ma coupe par avance.
Ce sont eux qui alimentent
les violences. Mais ceux les responsables des morts dans les quartiers, y compris de règlement de compte, parce qu'ils sont là pour faire un business, c'est le client. Hein. Quand vous consommez un joint récréatif, c'est sympa, hein, mais vous contribuez à la chaîne de la criminalité là-bas.
Je suis pas d'accord. Je pense qu'une des raisons de la situation actuelle, c'est la politique du chiffre qu'on a imposée aux policiers, qui fait qu'il vaut mieux appeler, il vaut mieux interpeller 5 petits revendeurs au bas d'une tour.
Non, ça existe.
Plutôt,
ça existe. Ça n'existe plus maintenant.
Est-ce que je peux terminer? C'est ce que disent aujourd'hui les policiers. Hein. Les policiers expliquent qu'aujourd'hui, la politique du chiffre est qu'il vaut mieux attraper 10 petits dealers plutôt que d'enquêter 3 mois sans résultat probant et d'interpeller un haut trafiquant. Premier point. Deuxième point, c'est un problème d'effectif aussi parce que quand on fait une descente dans une tour pour virer tout le monde, on ne reste pas, il n'y a plus de police de proximité, on le sait.
Et une fois, nous que je ne sais plus à quelle date ça se passait, mais c'est l'année dernière, Emmanuel Macron, c'était en septembre, je crois, a annoncé un vaste plan pour la métropole marseillaise,
oui.
Et notamment en termes d'effectifs de police, rénovation des
écoles. Il y a eu des effectifs supplémentaires, mais ça ne suffit encore pas. Ça ne suffit encore pas. Et c'est pas, on va pas, il n'y a pas de pays qui fonctionne sans drogue. Donc condamner le consommateur ne sert à rien. Voilà. Il n'y a pas de pays qui vit sans drogue. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de drogue.
Ouais. Il y a des pays qui ont voulu légaliser, comme la Hollande, qui font marche arrière.
Oui, puis il y en a d'autres où ça marche très bien.
C'est la première porte d'entrée de la drogue. Puis
tout le monde ne légalise pas de la même manière.
Et puis il y a des pays où ça fonctionne très très bien.
Allez, Apolline Matin, faut-il réécrire les romans de James Bond, Les Ayants Droit de Ian Fleming, l'auteur des aventures du célèbre agent 007. On souhaitait que certains passages correspondent davantage à notre époque. Si. Une réécriture que nous détaille Marguerite Dumont.
Ces romans publiés entre 1951 et 1966 ont été corrigés par des sensitivity readers américains, un nouveau métier. Alors comment traduire en français des lecteurs correcteurs antiphrases choquantes, offensantes?
Ou censeurs, dirait certains.
Censeurs. Ouais. Le débat censeurs est ouvert, moderne. Charles. Ouais. pour qu'on soit très concret, le terme raciste nègre supprimé et remplacé par homme noir. Ian Fleming avait d'ailleurs autorisé lui-même cette modification. Autre exemple qui prête plus à la discussion dans le livre Vivre et laisser mourir, 007 entre dans un bar de striptease d'Harlem et je cite, Bond pouvait entendre le public halter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe. Phrase écrite en 1954. En 2023, ça devient Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce, un peu moins riche en détails.
Pierre-Edouard Magnan, un Bond soft, ça te va ou pas ?
Alors, objectivement, il y a plus, tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de cette émission sont bien plus graves que celui-là. Après, je trouve ça fondamentalement un peu ridicule. C'est Tintin au Congo, c'est la cigarette de Lucky Luke. Je veux dire, on peut réécrire, on peut expliquer, on peut faire de la pédagogie. Évidemment, il ne faudrait pas que des enfants lisent ça en pensant que c'est la norme et que c'est comme ça, mais ça a été créé dans les années 50, avec le langage des années 50, avec le mode de fonctionnement des années 50. Je veux dire, sans remonter si loin, quand vous entendez aujourd'hui certains sketchs de Coluche des années 70-80, je peux vous dire que aucun humoriste essaierait de les écrire. On pourrait aussi parler de Des Proches, dont on parle souvent. C'est une autre époque. Après, on fait le travail de pédagogie, évidemment. Tintin au Congo, surtout dans la version d'origine de sortie, il y a des choses qui sont objectivement racistes. Ouais. Mais on l'explique. Parce qu'en plus, en l'aseptisant ou en le corrigeant, on tue le sujet. Donc, il vaut mieux expliquer, faire de la pédagogie, mais réécrire et rechanger. Je répète, je vais faire une technique, mais qu'est-ce que Lucky Luke sans sa cigarette? Enfin, je veux dire, après,
on va prendre un exemple très concret et très vite, court. Vite. Quand on a publié Mein Kampf, parce qu'on a autorisé enfin la publication de Mein Kampf, elle a été publiée avec une contextualisation.
Oui, c'est autre chose.
Tous les écrits, tous les écrits qui ont eu lieu, si on les contextualise, eh ben, c'est une bonne chose. Oui. Il faut pas les réinterpréter, les réécrire.
C'était le zapping sur RMC, le meilleur du jour. Vous pouvez réécouter ça sur le podcast, évidemment, de l'émission. Dans un instant, c'est la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Tout de suite, c'est la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Salut Stéphane.
Salut Rémi.
Nous étions ensemble hier au Salon de l'Agriculture. Nous y serons encore demain depuis le stand des Hauts-de-France, porte de Versailles à Paris. Et là, on va parler d'agriculture, puisqu'il y a une grosse inquiétude en ce moment sur la filière bio. Après quasiment 10 ans de forte croissance, le marché des produits bio est en baisse, et ce pour la deuxième année consécutive.
Ouais, 7,4% de baisse l'an dernier pour les ventes de produits bio en grande surface, 12% dans les enseignes spécialisées, vous savez, les Naturalia, Biocoop et compagnie. Et ça confirme effectivement une tendance qui avait déjà été amorcée en 2021. La principale raison, évidemment, de ce ralentissement, c'est l'inflation. 12% de hausse en un an pour le prix des produits alimentaires. Du coup, les consommateurs font ce qu'on appelle des arbitrages, c'est-à-dire qu'ils abandonnent des produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter pour se rabattre sur des versions moins chères, c'est-à-dire parfois des produits bio. Ils achètent à la place des produits issus de l'agriculture conventionnelle. L'Institut IRI avait calculé en 2021 que l'écart de prix entre le bio et le conventionnel était compris entre 30 et 40%. Donc c'est vraiment une source d'économie importante pour les consommateurs, et c'est ce qu'ils ont fait donc en 2022. Même chose pour les collectivités. Vous savez, il y avait un objectif qui était de servir 20% de produits bio minimum dans les cantines scolaires notamment. Aujourd'hui, on est à 6% selon le ministre de l'Agriculture. Même pas un tiers de l'objectif qui avait été fixé. Là encore, c'est à cause de l'inflation. Les collectivités, tout simplement, achètent des produits moins chers pour rester dans le budget.
Donc, il y a la question prix, mais c'est pas la seule raison. Il y a aussi des changements dans les modes de consommation.
Oui, et ça, c'est intéressant, en fait. Avec le développement du bio-industriel, les supermarchés, les producteurs ont appliqué les méthodes de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des fruits et légumes dans des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins élevée, donc notamment au Maroc, qui produit pas mal de bio. Et pour ramener ces produits en France, il y a du transport, mais il y a surtout un délai incompressible. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils cueillent les fruits alors qu'ils ne sont pas encore à maturité. Ils les stockent dans des chambres froides. Et tout ça, on le sait, ça dégrade la qualité gustative de ces fruits et légumes. Et finalement, les consommateurs se sont rendus compte que les produits bio, ça n'était pas toujours ceux qui avaient le meilleur goût, ceux qui étaient les plus savoureux. Et donc, résultat, on achète de plus en plus local. Et pas forcément bio, c'est-à-dire qu'on préfère le petit producteur du coin de la rue qui vend directement en provenance de sa ferme, même si c'est pas forcément
et
du bio.
Et pour en venir aux produits bio qui viennent de l'étranger, il faut voir quelles sont les normes bio dans ces pays-là aussi, qui sont
parfois différentes.
Pas du tout les nôtres. D'ailleurs, les magasins réduisent de plus en plus. Moi, ça, je l'ai constaté, la surface de vente commerciale des produits bio. J'ai un supérette où je vais de temps en temps pour me dépanner. À côté de chez moi, le rayon bio, enfin, il est passé du simple au double. Enfin, du double simple.
Tout simplement. C'est tout petit, il s'adapte en fait. Il s'adapte au ralentissement de la demande. 13% de baisse pour l'offre de produits bio en GMS, c'est-à-dire grande et moyenne surface entre octobre 2021 et octobre 2022. Ça veut dire donc moins de références, moins d'espace, mais ça veut dire aussi toute une série de conséquences en cascade sur la chaîne de production. D'abord, pour les industriels de l'agroalimentaire, ils ont des contrats signés à l'année pour acheter, par exemple, la production de lait en provenance des coopératives bio. L'an dernier, Lactalis n'a pas tout écoulé et ils ont dû déclasser 40% du lait bio en lait conventionnel. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle, c'était acheter du lait conventionnel, c'était du bio au final. Pareil pour les poulets, l'an dernier les producteurs n'ont pas réussi à tout écouler, sachant qu'un poulet bio ça s'achète chez le producteur trois fois plus cher qu'un poulet classique. L'an dernier les industriels là encore ont dû déclasser certains poulets plutôt que de les jeter, c'est plus intelligent, mais à l'avenir ils risquent évidemment de baisser le niveau de commande.
Et au final, comme d'habitude, les agriculteurs, les éleveurs se retrouvent sous pression.
Oui, avec un phénomène qu'on avait déjà enregistré en 2021, ça s'appelle la déconversion, c'est-à-dire ce sont des agriculteurs qui s'étaient convertis du conventionnel vers le bio et qui font marche arrière. Alors ça concernait une dizaine d'exploitations en 2021, donc c'est extrêmement limité par rapport au nombre d'exploitations en France, il y en a pratiquement 400 000, mais ça inquiète effectivement toute la filière bio et le secteur agricole. Aujourd'hui, il y a 60 000 exploitations bio en France sur un total de 390 000 exploitations agricoles. Enfin, pour le consommateur, il y a quand même un effet positif. L'inflation est à 12% sur les produits alimentaires, très forte hausse. Sur les produits bio, vu que la demande est en baisse, leur prix n'a augmenté que 4,6% l'an dernier, c'est-à-dire pratiquement trois fois moins vite que l'inflation générale sur les produits alimentaires. Donc on va finir par payer le bio un petit peu moins cher en raison d'un fléchissement de la demande.
Stéphane, est-ce que tu vas encore au restaurant ?
Oui.
Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ont changé ?
Oui, la quantité dans les assiettes. Ouais. Ça s'appelle la shrinkflation.
Ouais, ça, on me l'a dit. On m'a fait remarquer quand j'ai posé la question ce matin à la rédaction.
Sinon, tout va bien. À Paris, ils font toujours la gueule.
Oui, ça, c'est bien. Ça ne change pas. Il y a des standards. Le prix a aussi augmenté un peu. Alfred nous le dira.
Un peu.
Je n'osais pas dire beaucoup. Et puis, il y a autre chose aussi. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. On sait qu'il y aura une pénurie de personnel. Le service, parfois, c'est surprenant.
On attend.
Surprenant. Plus. Surprenant. Eh bien, on vous pose la question. Hausse des prix, baisse de la qualité de service, quantité réduite dans vos assiettes. Est-ce que vous avez encore envie d'aller au restaurant ? Vous nous appelez au 3216 et dans un instant dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.